Mao reprit espoir, et Charles de la Marche, ayant cru habile de dire que son frère Philippe ne pouvait être partout à la fois, au conclave et à Paris, elle se lança dans le débat. « Lyon n'est pas au pays du Grand Cannes, on en revient en peu de jours. Nous ne sommes point assez nombreux pour décider dans l'instant d'une chose si grave. Des pairs du royaume, je ne vois ici que 2 sur 12. Aucun duc évêque, aucun comte évêque. Le connétable n'est pas là, ni le duc de Bourgogne. » À ce nom, Robert d'Artois, Philippe de Valois et Louis de Clermont sursautèrent. Le duc Eudes de Bourgogne, le nouveau duc et sa mère Agnès de France, voilà bien ceux qu'on redoutait, dont il fallait se hâter de devancer les menées. L'enfant de Clémence était encore à naître, en admettant qu'il naquit jamais, et l'on verrait seulement alors s'il était mâle ou femelle. Eudes de Bourgogne était donc fondé à réclamer la régence, et contre Poitiers aussi bien que contre Valois, au nom de sa nièce, la petite Jeanne de Navarre, fille de Marguerite. Or, on savait bien que Jeanne était bâtarde.
« Mais vous n'en savez rien, Robert !» s'écria Louis d'Evreux. « Les présomptions ne sont pas certitudes, et Marguerite a emporté son secret dans la tombe où vous l'avez mise !»
D'Evreux avait lancé ce « vous » dans une acception vague et générale, mais le géant, qui avait toute raison de se sentir personnellement visé, pria D'Evreux d'éclaircir son dire ou bien de se rétracter.
« Oubliez-vous, Louis, que vous avez épousé ma propre sœur, et dois-je attendre de mon plus proche parent qu'il se fasse la trompette de mes calomnieurs? Vous ne parleriez pas autrement si vous étiez payé par les Bourgognes !»
L'incident tournait au plus mal, et l'on put craindre un instant que les deux beaux-frères ne se demandassent gage de bataille. Une fois de plus, le scandale de la Tour de Nesle et ses séquelles divisaient la famille de France et même à présent menaçaient de diviser le royaume. L'archevêque Marigny fit entendre alors la voix de l'Église et, prêchant la conciliation, invita les adversaires au respect de ce qu'il appela la trêve de deuil. À son sens, il ne fallait pas attribuer d'intentions infamantes aux paroles de Mgr d'Evreux, et le mot « tombe » dans sa bouche désignait certainement la forteresse de Château-Gaillard, où Marguerite de Bourgogne avait été recluse, comme dans une tombe, et où elle était morte. Louis d'Evreux n'approuva ni n'infirma. Quant à Robert, il grommela « Après tout, Château-Gaillard est encore moins distant d'Evreux qu'il ne l'est de mon château de Conches !» La porte s'ouvrit alors sur Mathieu de Tri, qui annonça qu'il avait à faire une grave communication. On le pria de parler.
Tandis qu'on embaumait le corps du roi, dit le chambellan, un chien, qui s'était introduit, sans qu'on y prêtât garde, a léché des linges qui avaient servi à ôter les entrailles. Et alors, demanda Valois, est-ce là votre grande nouvelle?
C'est que, messeigneurs, ce chien est aussitôt tombé en douleur, s'est mis à geindre et à se tordre, et que le voilà pris du même mal que le roi. Peut-être même est-il déjà mort maintenant.
De nouveau, on n'entendit rien d'autre que le son du glas répercuté depuis Notre-Dame. La comtesse Mao n'avait pas bronché, mais une atroce anxiété lui descendait au cœur.
« Vais-je être découverte par la gloutonnerie d'un chien ?» se disait-elle.
« Vous pensez donc, Mathieu, qu'il y a eu poison ?» prononça enfin Louis d'Evreux.
« Il va falloir faire enquête, et diligemment mener, » dit Charles Levallois.
Bouville, qui pendant toute la discussion s'était tenu silencieux auprès du siège royal, se leva.
« Mais, seigneur, si l'on a voulu attenter à la vie du roi, il est à redouter qu'on ne veuille aussi atteindre celle de l'enfant à naître. Je demande une garde de 6 écuyers en armes, et à mes ordres de jour et nuit pour veiller à la porte de la reine et l'interdire à toute main criminelle. »
On lui répondit d'agir comme il l'entendait. Peu après, le conseil s'ajourna au lendemain, sans avoir rien décidé de précis. Valois espérait, dans les prochaines heures, avancer ses affaires. Sur la porte, Mao rejoignit Louis d'Evreux et lui dit à voix basse
« Allez-vous envoyer un chevaucheur à Philippe pour l'instruire de ce qui vient de se passer ?»«
Certes, ma cousine, je vais le faire. Et je veux avertir également notre tante Agnès. »
« Alors je vous laisse agir, puisque nous sommes d'accord en tout. »